Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM pour un nouveau numéro de Time Sport comme chaque soir de 20h à 21h à la suite des informés d'Adil Farkan que vous pouvez retrouver dès demain 19h-20h. Ce soir durant l'émission, on vous fait remporter, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, des livres de la star hollandaise Marco Van Basten avec les éditions Solar. Rien de plus simple, le numéro du standard, le 01 53 48 3000, pour nous appeler, réagir, passer un petit coucou à la famille, aux amis, ou même à votre amoureux ou amoureuse. Et voilà, rien de plus simple pour le remporter. Eh ben, vous contactez Yanis au 01 53 48 3000 et on vous le fait parvenir rapidement. Au menu de cette émission, justement, on commencera avec le JT Sport préparé par notre rédacteur Jason. Et nous prendrons la direction de l'Italie. Eh oui, direction l'Italie et son calcio avec nos invités de ce soir, Michela Macali, correspondante Italie pour le football et agent FIFA. Et sans oublier, pour la première fois aussi avec nous sur l'antenne de Beurre FM, Romain Marcilli, directeur éditorial, mais aussi producteur et enseignant chez Sciences Po. On parlera ce soir du Milan AC, de son Scudetto, et on verra s'il reste ce fameux grand club à l'échelle internationale. Et on s'attardera aussi encore une fois sur ce magnifique pays qu'est l'Italie, ce vivier incroyable, mais sans Coupe du Monde. Et oui, au Qatar 2022. Et enfin, on va là aussi revenir sur ce grand championnat italien qui est le calcio, et oui, qui nous a fait tant rêver durant des décennies. Donc restez bien à l'écoute, chers auditeurs de Beurre FM, et n'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000 pour réagir durant toute l'émission. Sans plus tarder, on commence avec le JT Sport.
Time Time Sport.
Eh oui, bonsoir à tous, on démarre ce JT Mercato par la France et l'Olympique de Marseille qui vient de confirmer la bombe de la semaine. Steve Mandanda va bel et bien rejoindre le Stade Rennais pour les deux prochaines saisons. Dans les prochaines heures, après la traditionnelle visite médicale, l'international français est d'ores et déjà en Bretagne pour régler les derniers détails. À l'étranger, Sébastien Haller a été officiellement présenté cet après-midi par le Borussia Dortmund. L'attaquant franco-ivoirien a donc été acheté pour la somme de 35 millions d'euros en provenance de l'Ajax, avec la lourde tâche de faire oublier un certain Erling Haaland. En Espagne, Axel Witsel, qui justement a lui quitté Dortmund, libre et qui devient officiellement un joueur de l'Atlético Madrid, le Belge de 32 ans, s'est engagé pour deux saisons du côté de l'Espagne. Et enfin, en Angleterre, Christian Eriksen a donné son accord verbal avec Manchester United, qui devrait également confirmer la venue du Danois dans les prochains jours du côté d'Old Trafford. Voilà, c'est tout pour moi. Ce soir, on vous souhaite une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport.
Ah ben merci Jason. Voilà, on va essayer de passer un agréable moment avec toutes les auditrices, les auditeurs de Beurre FM sur ce créneau horaire, on le rappelle, 20h, 21h, tous les soirs sur l'antenne de Beurre FM, la radio de la diversité. C'est Time Sport avec toute son équipe. Ah ben bon, ce soir on est un peu, voilà, on est en sous-effectif, c'est bien ça Abdel, hein. On a qu'Abdel ce soir.
Bonsoir ouais. Abdel. Ça va, bonsoir.
Comment ça va, Abdel?
Pas en sous-effectif, hein. Des fois, ça fait du bien d'être.
Ça fait du bien. Ah ben là, ça va faire du bien. Surtout pour toi,
on
Abdel.
On est libre.
Ouais.
Parce qu'on me dit que je parle trop, là, je pourrais trop parler.
Ah ben justement, ouais. on va l'écouter, Abdel. On va bien longuement l'écouter sur les ondes de Beurre FM. Et sans oublier aussi, allez, un de nos invités. Lui, il est avec nous ce soir dans ce studio. C'est Romain Marcilli. Comment ça va, Romain?
Ça va, bonsoir Bilal, bonsoir.
Ça va bien?
Bonsoir à tous.
Ouais?
Ben, ça va très bien.
Il fait beau sur Paris, Romain?
Il fait beau, Milan.
Ça, c'est tranquille.
Milan, champion d'Italie, il fait beau, tout
ah
va
ben,
bien.
Ah ben, c'est ça. Justement, on va s'attarder sur ce premier sujet concernant les Rossoneri. Et oui, le grand Milan AC, justement, qui a fait tant rêver pas mal de personnes, que ce soit les jeunes et les moins jeunes, Romain. On y va.
Time Sport. Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux.
La région de la Lombardie qui refait signer encore une fois un certain Zlatan Ibrahimovic. Eh oui, l'ogre suédois romain. Oui, ça fait du bien.
Bah bien sûr.
Ouais.
C'était 11 ans depuis le dernier titre. Je pense que beaucoup de nous l'attendions. Mais je pense qu'au-delà des supporters, beaucoup respectent Milan. C'est un club qui a beaucoup fait rêver, comme tu as dit, dans
les
80, 90, 2000, tous les grands joueurs, les Hollandais. Shevchenko, Kaka, Inzaghi, Maldini, Baresi. Enfin, si on les cite tous,
on va revenir sur ça.
Toute l'émission, hein,
bien sûr, mais on est là pour ça ce soir.
Mais, donc je pense que beaucoup sont contents de Milan, que Milan soit de nouveau au premier plan.
Ouais, justement.
Ben, je suis assez d'accord en fait
avec
sur le levier des supporters. Pourquoi ? Parce que on a l'impression que en Italie, on met pas assez en avant cette ferveur, et on sait que
elle a été oubliée.
Il y a beaucoup de cycles dans ce championnat-là où il y a des équipes qui sont dominantes sur des longues durées, et les supporters sont toujours derrière eux malgré le fait qu'ils soient pas forcément en accord avec la direction. Quand on voit aujourd'hui que Milan retrouve le championnat et le titre de champion, c'est pas une surprise. Ils ont su prendre le temps de se reconstruire, d'avoir des investisseurs intelligents. Quand on regarde l'effectif, il y a pas forcément de base de grands noms. Il y a des bons joueurs de Serie A et il y a beaucoup de joueurs d'expérience. T'as cité Ibrahimovic, on peut citer Olivier Giroud, on peut en citer d'autres. Mais pour terminer, c'est vrai que voilà, je pense que ça a été bien fait, ça a été une belle saison et ça a été mérité de les revoir au premier plan, même si la Ligue des Champions par exemple ne s'est pas encore passée, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas revenus sur la scène européenne, mais le championnat était très important et ça va les relancer.
Ah, justement, Romain.
Le championnat était la priorité. Ouais. Vous mentionnez quelque chose d'important.
Alors c'est quoi ?
C'était de beau. Milan est l'équipe la plus jeune. L'effectif le plus jeune à être champion depuis qu'on compte la victoire à 3 points, donc depuis 94. C'était une équipe à deux visages, à la fois, comme tu l'as dit, des joueurs très expérimentés, Ibra, Giroud, Kier, il faut aussi le mentionner, qui encadraient des joueurs très jeunes et très talentueux, y compris beaucoup de Français et de francophones. Tonali, à mon avis, qui est le meilleur d'entre eux, très talentueux, mais on peut citer Bennacer, Kaloulou.
Enfin, voilà, dans la zone algérienne,
Kaloulou, dont on parle trop peu en France, mais qui est vraiment remarquable. Quand Kaloulou est rentré dans l'équipe à partir de février, Milan est devenu la meilleure défense du championnat.
Ouais.
On en parle peu, c'est un joueur qui a son niveau pour être en équipe de France, mais qui est remarquable.
C'est vrai.
On voit le fin connaisseur.
C'est la réalité. Et ça montre aussi que dans une époque où on trouvait que le championnat italien était composé que de vieux briscards qui allaient jusqu'à 35-36 ans, maintenant il y a la capacité de se régénérer. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément énormément d'Italiens peut-être au Milan, mais voilà, il faut aussi pour se recycler, avoir des joueurs de nouveaux horizons, parce que on en parlera après, c'est dans le prochain sujet, mais l'Italie, on a l'impression qu'il y a quelques bonnes individualités, mais c'est plus assez pour les laisser dans le championnat, malgré qu'il y ait une, on va dire, pas un changement de dimension, parce que c'est un peu redescendu et c'est remonté, mais c'est peut-être pas assez par rapport à ce que voudraient certains talents italiens en termes d'espérance. Et voilà, là il y a Tonali qui est là, ils ont perdu quelqu'un qui est Donnarumma, qui était quand même important, même si McMignon est là. Alors, il y a un peu la valse.
Alors Donnarumma, je pense que je vais être un peu polémique, mais bon, faut lancer un peu de polémique. Je pense que c'est aussi un point faible de l'équipe d'Italie, je pense.
Carrément.
Je pense. En tout cas, à Milan, Milan l'a remplacé par Maignan, qui est bien meilleur, et les supporters de Milan sont bien plus rassurés avec Maignan, notamment pour son jeu au pied, que par rapport à la situation avec Donnarumma. Il y a beaucoup de très bons joueurs en Italie, mais pas forcément italiens. C'est ça le souci.
Ouais. Beaucoup d'étrangers aujourd'hui.
Oui, beaucoup d'étrangers.
On a connu ça aussi à l'époque, Romain.
Oui, mais
vous le savez,
tu as des sauts générationnels. Là, c'est un peu plus faible. Il y a quand même de très bons joueurs italiens. Hein.
Ouais.
Des Barrella, comme Tonali, dont on parle, Chiesa, qui arrive. Donc il y a une bonne génération qui arrive.
Ouais.
Je pense qu'il fallait qu'une certaine génération qui sentait un peu, excuse-moi, la loose, même si on gagnait dans les conditions qu'on connaît, l'euro parte. La génération des Chiellini, Bonucci, bon, tout ça, ça s'en va. Il y a une génération qui va arriver, qui sera très bonne. 2022, c'était un peu tôt. Mais je pense que pour la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, ça va être pas mal. La dernière fois, en Amérique, les Italiens avaient bien réussi.
C'est vrai, finaliste, on le rappelle. Hein.
Exactement.
1994 face au Brésil de Dunga, Romario Bebeto.
C'est ça.
Mais de merveille. Oui, Abdel, on t'écoute. On a pas mal de monde qui nous appelle là ce soir.
Avec plaisir, on pourra leur répondre.
On va réagir. Oui, le football italien, ça fait rêver. Hein.
Par rapport au titre de ce qu'ils vont proposer comme sujet, il faut jamais sous-estimer un titre quand on sait. Là, on parle du Milan, mais ça peut être l'Inter quand ils ont dû retrouver leurs sensations. La longue période de disette aussi de la Juve qui n'avait pas gagné pendant un moment. En fait, je pense que malgré ce qui se passe en coulisses, il y a quand même une certaine organisation et pas de précipitation. Et ça, c'est ce qui est important. On en a parlé avec des clubs, toute proportion gardée, mais avec avec Manchester United ou même avec le Barça, de dire qu'en gros ils acceptaient pas le fait de perdre un peu de perdre un peu leur aura, ouais, et de repartir sur un projet qui a été cohérent. On veut toujours faire du neuf sur du vieux au lieu de repartir à zéro. Et en Italie, s'il y a bien quelque chose qui pour moi pas m'impressionne, mais alors qui est bien fait, c'est ça. On n'a pas peur de repartir à zéro parce que on sait de quoi est fait le club, on connaît son histoire et on a envie justement de redorer le blason. Donc à partir de là, on prend son temps et c'est ça qui est important. C'est pour ça aussi qu'on voit de longs cycles de victoires par rapport à certains clubs.
Ouais, bien sûr. Alors Romain,
aussi notre invité. À Milan qu'à l'Inter, on a un peu trop pris notre temps. Il y a eu quand même une décennie 2010 qui était cata. Et alors moi je suis très enthousiaste pour le championnat italien, c'est un championnat qu'on adore, je pense.
Bien sûr.
Dans ce studio, et beaucoup de nos auditeurs.
C'est vrai.
Attendons, hein, on est enthousiaste, la remontée n'est pas encore totalement là.
Bien sûr.
En reparlera quand Milan et l'Inter de nouveau seront en finale de Champions League. Je parle pas de la Juve car malheureusement ils sont en finale de Champions League, ils les perdent, mais si on parle des clubs un peu sérieux en Europe comme Milan et l'Inter, je pense que quand Milan et l'Inter seront de nouveau au top, ce sera vraiment le signe que le championnat italien est de nouveau là. Et il y a quand même un petit problème, et peut-être
alors
qu'on
parlera
plus tard.
Ouais.
En Italie, il y a quand même un problème d'infrastructure.
On va revenir sur ça.
Voilà, on y reviendra, mais je pense que c'est très important.
Bien sûr.
Le modèle économique est faible comparativement à l'Espagne, à l'Angleterre.
Peut-être.
Même parfois à la France.
On a changé.
Il y a la question des stades qui est gravissime, puisque les stades sont vraiment...
Le stade, par exemple, de Naples. Hein. Il n'y a pas que lui.
Paris. Naples, mais tu parles même San Siro.
San Siro.
On adore. C'est vrai. C'est un stade... Quand on est allé, toutes les personnes sur la Sentir sont amoureux.
Justement, on en a des amoureux ce soir, Romain Marcelli. Justement, on aura aussi notre second invité qui n'est autre que Michaela Makkali. Ça, c'est promis rien que pour vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, le 01 53 48 3000 avant la première pause. Et c'est Achille que nous allons prendre. On a aussi Julien et sans oublier Eric, ils vont intervenir. Eh oui, je crois que Achille, grand amoureux des Rossoneri, c'est bien ça. Bonsoir, Achille.
Bonsoir, j'espère que vous allez bien.
Oui, ça va très très bien, Achille.
Ça va.
On parlait justement du football italien et de ce club de la région lombarde qui est le Milan AC. Qui a fait rêver le Milan AC.
Ouais, là, c'est Milan, c'est vrai que c'est un club, c'est le plus grand club d'Italie. C'est le plus grand club d'Italie. Après, c'est vrai que de ce que j'ai pu entendre un petit peu de la part des intervenants il y a quelques secondes, et d'ailleurs, j'ai vu tous les intervenants présents sur place. Il y en a un qui a soulevé un vrai point, qui est la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous n'avez pas forcément la capacité financière de pouvoir rivaliser avec les mastodontes européens que sont les clubs anglais, voire potentiellement allemands, effectivement, il faut passer par le centre de formation. Et c'est vrai qu'en Italie, il y a une certaine vétusté, que ce soit au niveau des stades ou même au niveau des structures d'encadrement qui ne sont pas aussi développées que le top 8 ou le top 12 européen.
Bonsoir Achille. Tout à fait d'accord.
Alors on est avec Romain, notre invité.
Tout à fait d'accord, il y a un problème de formation et puis il y a un problème d'organisation. Le championnat des jeunes, la Primavera, n'est pas très bien organisé. Il n'y a pas d'équipe réserve non plus en Italie, quasiment pas.
Non, il n'y a pas de Primavera.
Voilà, donc c'est très difficile. C'est très difficile pour les joueurs de jouer.
Mais à défaut quand même d'avoir les Primavera, il y a quand même les U23. Donc bon, c'est un système aussi qui est assez particulier. Mais il y a une vague qui est en train de... Enfin, il y a un changement qui a été amorcé. Et qui commence à se répercuter avec l'émergence de jeunes coachs comme Thiago Motta, Andrea Pirlo, pour ne citer que ces deux noms-là. Vous avez De Zerbi aussi. Vous avez donc en fait là en ce qui concerne la formation des entraîneurs, il y a un changement qui est en cours. Alors dont on va vraiment et réellement voir les bienfaits dans plusieurs années encore. Il y a la rénovation ou alors dans certains cas de figure l'acquisition de nouveaux stades. Donc c'est tout un chantier qui est mis en place. Et regardez aussi ça se répercute aussi sur l'équipe nationale. Regardez Roberto Mancini, il tente de reconstruire effectivement l'équipe nationale avec des jeunes talents italiens.
Oui.
Alors, c'est plus que c'était dans les années 2000 ou alors dans les années 90.
Oui.
Le niveau a baissé. Cependant, il y a un vrai chantier, mais qui est assez intéressant.
Abdel avec Romain
non,
aussi.
Pour moi, c'était plus alors, pour parler de la formation. Ça complète un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait que dans les grands clubs européens, on retrouve plus forcément une ossature de italienne. Je parle pas des vieux briscards, mais justement la nouvelle génération et le fait que peut-être des fois le manque d'infrastructures, ça peut ne pas être que chez les jeunes, parce que si ça impacte aussi chez les professionnels, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de départ, pardon, excusez-moi, j'ai bugué.
Ouais,
et à partir de là, je pense que ça peut être un problème, et ça a été un problème sur le fait que le calcio avait beaucoup baissé en termes de niveau, en termes de qualité, parce que les plus grands talents s'exportaient ailleurs. Et quand t'es mieux cadré, que ce soit en Angleterre ou en Allemagne ou où tu veux, comme le disait Achille, et ben forcément c'est ces clubs-là, c'est ces pays-là qui en bénéficient. Et toi, tu te trouves en difficulté. Et longtemps, il y avait une concordance entre la bonne réussite du calcio et la bonne réussite de la Squadra Azzurra. Et pendant un moment donné, et ben le creux qu'il y a eu, ben ça a pas bénéficié justement à la sélection, pardon. Donc je trouve que voilà, c'est ça renaît, mais le creux s'explique avec les deux entités fortes qui ont été le championnat et la sélection.
Alors,
tu as eu un creux. Enfin, ce soir, ouais. On va être optimiste. Hein,
alors,
on va
parler des belles choses
qui arrivent, mais si on fait un rapide retour vers le passé, ouais. Sur les 15 dernières années, il y a eu un creux qui a commencé avec Calciopoli. Il faut quand même rappeler ça. Il y a eu un scandale d'arbitrage catastrophique en Italie.
À l'époque.
Il y avait une corruption endémique en Italie. Avec tout un système organisé autour d'un club, donc qui quand même était vraiment un peu un cancer pour le championnat.
Ouais, Romain.
Les années 2010 ont été très difficiles aussi, ouais. Parce qu'il y a encore ce même club a un peu étouffé tout et avait un peu réflexe à la Bayern, mais à pomper toutes les énergies du championnat. Et c'était très particulier pour qui a suivi avec attention ce championnat des années 2010. Maintenant, ça revient, donc il faut voir les choses de manière optimiste. Il y a les deux Milanais qui sont les vrais contrepoids à la Juve.
Ouais.
En fait, malheureusement, c'est pas Naples, c'est pas Rome. Hein.
Ouais.
Les deux Milanaises sont de retour au très bon niveau. L'Inter a une très grosse équipe. Elle n'a pas été championne l'an dernier, mais
elle a construit.
C'était vraiment une très belle équipe. Et cette année, à mon avis, elle sera l'équipe favorite du championnat.
Ouais.
Et maintenant, ce qu'on attend, c'est le retour en Europe. Voilà.
Bien sûr.
Aussi bien de Milan que de l'Inter.
Des
quarts de finale, ouais. Des demi-finales, des exploits comme ça.
Aller loin jusqu'au cette fameuse.
Ces deux clubs qui ont, surtout Milan, un vrai ADN européen.
Ouais.
Et ça, on va le retrouver.
Pas faux. Alors, on va donner la parole à Achille rapidement, Achille, avant la pause. Rapide, Achille. Hein.
Juste rapidement.
Ouais.
En fait, il y a une corrélation avec tout ça.
Ouais.
C'est-à-dire que quand vous regardez, moi, j'ai parlé d'émergence de ces nouveaux coachs. Et pourquoi j'ai parlé de ces nouveaux coachs? Parce qu'en fait, ils ont une facilité à faire jouer beaucoup plus facilement les jeunes. En les intégrant à l'équipe première. Et quand on regarde historiquement parlant, les clubs italiens sont des clubs qui font jouer assez tard.
Merci Achille. Merci Achille, désolé. Une courte pause qui s'impose justement et on revient rapidement avec vous, cher auditeur.
Time Sport revient. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours là en compagnie de Romain Marcilli, notre invité, notre premier invité justement, directeur éditorial, et sans oublier aussi Abdel. Et oui, un petit mot Romain, hein, parce qu'on aimerait aussi parler, voilà, on est dans la radio, hein, qui dit radio dit audio aussi, le corps c'est l'Auvergnat, si on pourrait en dire plus un peu à nos auditeurs, nos auditrices ce soir.
Ben écoute, merci beaucoup d'en parler, c'est un podcast que j'ai lancé avec un très bon ami, essayiste, diplomate, Jérémy Gallon.
Donc, à qui nous passons le bonsoir.
Voilà, il est Auvergnat, je suis corse, tu l'as compris.
Voilà.
Et c'est un podcast hebdomadaire, tous les mercredis.
Ouais.
On parle de manière très tranquille, hein, comme on le fait là. C'est une discussion finalement entre personnes de bonne volonté, et qui sont bien, cordiales, qui parlent de géopolitique, de politique, beaucoup de sport et de culture. Et voilà, et c'est ce matin, par exemple, dans le dernier épisode, on parle beaucoup de Wimbledon. sur un ton un peu original. Donc, ouais. Voilà, là, ça commence à être un beau petit succès.
Ah ben justement.
Beaucoup de retours. Donc, j'invite bien sûr tous nos auditeurs aussi à tester. C'est sur toutes les plateformes de podcast.
Ouais.
Le Corse et l'Auvergnat. Voilà. Tous les mercredis.
Ah ben c'est ça. Tous les mercredis. Comme le dit Romain Marcelin, notre invité ce soir sur l'antenne de Beurre FM. Allez, on va aborder un autre sujet. On reste en Italie, ça c'est promis. Mais on va prendre notre second invité ce soir.
Timesport. The Special One.
Eh oui, Abdel et Romain sont là avec nous dans le studio, mais on accueille Michela Macali. Buonasera, comment ça va, Michela?
Buonasera à tout le monde et ciao.
Eh ben justement, voilà, ça nous donne la joie, la bonne humeur, ce sourire, le soleil aussi. L'Italie qui revient en force justement. Correspondante italienne pour le football et aussi agent FIFA. Et Michela, vous êtes avec nous ce soir justement pour un peu revenir sur ce calcio, ce championnat italien. La Serie A, c'était notre débat du jour, Michela. La Serie A vous fait-elle encore rêver, Michela? On vous écoute.
À mon avis, cette année, ce sera une saison très de feu, on peut dire comme ça, parce que ma région, la Lombardie, cette année, voit 5 équipes de la Lombardie qui sont Atalanta, Milan, Inter, Cremonese et Monza. On verra surtout 2 derbies qui sont très cool, parce qu'on a déjà, que vous connaissez sûrement, l'Inter contre les Milan. Mais cette année, on voit le président Berlusconi qui revient en Serie A avec les Monza Calcio. Alors, on verra notre derby entre Monza et Milan.
Allez, on est avec Romain Marcilli, notre second invité, Michela, directeur éditorial et producteur et enseignant ici en France, du côté de Sciences Po. Il aimerait réagir avec vous.
Oui, tout à fait. Alors, ça va être une très belle saison. On a très hâte de voir ce que va donner Monza, parce qu'effectivement, à la tête de Monza, il y a le duo mythique qui a fait rêver les Milanais pendant 30 ans, Berlusconi et le dottor Galliani, qui était l'administrateur délégué de Milan, qui était le roi du mercato, le roi des affaires à costo zero, c'est-à-dire les joueurs qui venaient gratuitement, et puis c'était un grand connaisseur. Et ils ont pris ce club après avoir vendu Milan. Monza, c'est très connu pour la Formule 1.
Oui, c'est vrai.
Se déroule le Grand Prix d'Italie. Mais maintenant, ça va être aussi une équipe à suivre intéressante, car ils ont de grosses ambitions. Il y a beaucoup de rumeurs, mais peut-être que Michela en sait plus sur beaucoup de grands joueurs.
Oui,
comme Icardi, Dybala.
Oui, exactement. Puis, j'ai beaucoup d'admiration pour Pessina. Vous connaissez Pessina qui a été à l'Atalanta.
Oui.
Il a été acheté par le Monza. Et alors, le Monza, il a dit dans ses derniers jours qu'il veut être dans la 10e place. Pas se sauver, mais faire un grand championnat. Et à mon avis, comme vous avez dit, il y a plusieurs de noms très grands de joueurs. Mais surtout parce que le président, vous disait, Berlusconi et Galliani ont des possibilités économiques pour le faire.
Allez Abdel, avec Michela.
Oui, bonsoir Michela, mais
Romain.
Ça va être aussi une question pour les deux invités.
Justement.
Quand on est suiveur du calcio depuis longtemps et qu'on met toujours ce championnat, on va dire en numéro un. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de ce championnat? Est-ce qu'on attend que ce soit la guerre entre 3-4 équipes, que le championnat se rééquilibre, qu'il y ait des surprises? C'est quoi vos attentes à un mois du début du championnat?
À mon avis, ce sont 4 ou 5 équipes qui sont en train de faire la lutte, parce que j'ai regardé aujourd'hui, je vais donner une autre point culturel, on peut dire comme ça, parce que le Milan et l'Inter, ils ont gagné 19 scudetto, ça veut dire 19 fois la Serie A. Les deux équipes qui vont avoir la 2e étoile, parce que M. Agnelli, le président mythique de la Juve, dans le 1950-60, il a déçu pour la Serie A 2013. Chaque 10 scudetti, une étoile sur le maillot. Alors, ça veut dire que le Milan et l'Inter cette année, c'est une bataille, on peut dire comme ça, pour avoir la 2e étoile.
Ouais.
Pour l'instant, c'est vraiment le jeu il a les trois étoiles sur le maillot.
Bien sûr.
Oui, je vous dis déjà que voilà, le meilleur chat, mon ami Mourinho et la Roma,
ouais.
Vous savez déjà que Feindling a toujours des bonnes sources économiques et voilà, la Roma va faire aussi une bonne stratégie parce que Mourinho aussi, vous avez vu dans,
ouais.
Dans le niveau européen, il a bien fait une stratégie, il a gagné et après plusieurs saisons que l'Italie, comme vous savez, n'a pas la possibilité de faire un championnat mondial ou de gagner des choses en Europe, Mourinho avec la Roma, il a montré des qualités aussi.
Ouais. L'Italie fait toujours rêver, c'est la course aux étoiles justement. On aimerait prendre Julien qui nous appelle depuis Marseille, Michela et Romain. Il aimerait réagir avec vous, oui, deux spécialistes du football italien. Bonsoir, bonsoir Julien.
Ouais, bonsoir Bilal, bonsoir Abdel.
Bonsoir. Ouais, on vous écoute Julien.
Et bonsoir monsieur le professeur et bonsoir Michela.
Buonasera.
Buonasera a tutti.
Magnifique accent.
Alors,
je crois qu'il y a quelqu'un qui en a parlé du Calciopoli.
Ouais, oui, c'était Romain.
C'est le professeur.
Le professeur,
ouais, c'est le professeur. Moi, je suis la génération 85, donc j'ai grandi avec une série A qui était au sommet. Je pense que toutes les stars rêvaient d'aller en Italie justement pour jouer dans les plus grands clubs. Que ce soit les 2000 ans, que ce soit la Juve. Même Parme, il y avait la Roma aussi qui était ultra compétitive. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Moi, j'étais petit, je me souviens que la Juve est descendue en D2, en Ligue 2. Je crois que c'est Deschamps, d'ailleurs.
C'est Libi.
Qui récupère la Juve et qui s'est fait remonter. Et qui se fait salement licencier juste après. Et je vous avouerai que moi, qui suis passionné de football et qui mange du ballon quasiment tous les jours, j'ai arrêté de suivre la Serie A, c'est vrai, à partir de 2010-2011. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai eu l'impression que ouais, ce championnat avait régressé. Et tout à l'heure, quelqu'un avait évoqué, le Calciopoli, ça c'est un fait, mais il y avait aussi peut-être la gestion des clubs qui étaient gérés par des familles et qui n'ont peut-être pas su prendre le wagon de
Ben Julien, moi je suis tout à fait d'accord avec vous et je vous comprends. Moi je suis passionné, mais c'est vrai qu'il y avait des choses très écœurantes dans ce championnat. Il y a eu beaucoup de problèmes dans les années 90, 2000, même 2010. Aujourd'hui, on pense que ça s'est assaini. Tout à l'heure, Abdel posait la question, qu'est-ce que vous souhaitez pour ce championnat? Moi, avant tout, je souhaite que ce soit un championnat régulier, bien organisé, avec un bon arbitrage. Ça, c'est le premier souhait. Sur le reste, ce sera sans aucun doute, comme disait Michaela, une très belle lutte. Moi, je pense que cette année, ça va plutôt se jouer entre l'Inter et la Juve.
Ouais.
Je connais bien mon Milan. On joue rarement 2-3 saisons d'affilée. Même à l'époque d'Ancelotti, etc. On est une fois champion, puis tout de suite, notre ADN étant très européen, on a dans la tronche la Champions League. Donc je pense qu'on va se concentrer sur la Champions League. L'Inter a une très belle équipe et la Juve va forcément revenir. Donc je pense que ça va se jouer plutôt entre les deux. Mais effectivement, il y a cette course à la Seconda Stelle entre Milan et l'Inter, qui est un petit piment dans le derby et dans l'affrontement quotidien entre ces deux groupes.
Réaction avec Michela Makkali, justement notre invité ce soir.
Oui, en effet, vous êtes en train de dire ma pensée, c'est la même, la chose la plus importante. Je ne sais pas, moi, quand je vais parler des équipes, si sont très forts ou pas, je vais toujours regarder le bilan, la gens qui a les présidents et surtout les ménagères. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'estime de Marotta. Vous savez, Marotta, il a fait des choses extraordinaires avec la Juve. Et quand il est à l'Inter, il a fait gagner aussi la Coppa Italia. Alors je vais dire, ok, c'est super, il va bien organiser, parce qu'il est en train de faire des choses extraordinaires, Maldini, à Milan, et oui, à la Juve, mais voilà, je sais qu'en France, la Juve, c'est Platini, Thuram, Trezeguet, Zidane, pour vous, la Juve, c'est une chose, la numéro 1.
Jocelyn Blanchard, n'oublions
pas. Ouais, aussi.
Ouais. C'est comme ça, c'est le rêve, mais je vais dire aussi à M. Julien qu'il faut regarder bien aussi l'Inter parce
Alors.
Que les ménagères qui vont gérer les clubs donnent un briefing tout de suite que le public, les supporters vont déjà comprendre un petit peu la saison qu'on va se
Alors justement, on va revenir à Julien Abdel rapidement avant de revenir avec l'auditeur.
Revenir sur
Mikaela Makadi.
Sur la vie de Julien, c'est vrai que moi j'ai un œil un peu extérieur. J'ai beaucoup suivi, j'ai beaucoup suivi le Calcio et aussi l'Inter Milan. Mais comme tu l'as dit, à un moment donné, t'as arrêté de regarder à une certaine période parce que peut-être qu'il y avait plus assez de concurrence, on va dire, sur le plan national. Et ce qui fait que potentiellement tu peux suivre des équipes qui performent ou surperforment dans leur championnat, c'est le levier peut-être européen, là où la les équipes italiennes sont un peu en difficulté depuis pas mal de temps maintenant. Donc je pense que c'est pour ça aussi que t'as eu cet engouement moindre pour le Calcio, tout comme moi, parce que c'est comme ça que je l'ai perçu et que je l'ai ressenti. C'est pour ça que je regardais beaucoup moins. Et tout à l'heure j'en parlais aussi, c'est
avec Romain,
c'est vrai que les diffusions aussi ne permettaient pas aussi de suivre régulièrement les championnats, les horaires ne mettaient pas assez en avant les gros matchs et les chocs. C'est quelque chose, la diffusion, qui est très importante. Si c'est mal géré, tu peux pas suivre.
Avant de laisser filer, on va revenir aussi à Romain. C'est Julien qui nous appelle depuis la cité phocéenne de Marseille. Allez, réagis encore avec Mikaela Makadi, notre invité.
Ouais, j'aimerais juste évoquer quelqu'un en a parlé. Les salubrités des vestiaires, les salubrités des stades.
Ouais.
Bon, on va pas parler aussi des comportements qu'on a pu voir aussi de la part de certains supporters. Mais c'est vrai que ce pays, en fait, il est divisé en deux. Le nord, très riche, et un sud qui est très pauvre. D'ailleurs, beaucoup appellent le sud de l'Italie le tiers-monde. C'est pas un hasard. Sans leur faire offense, je suis italien, donc je me permettrai absolument pas de dénigrer mon pays d'origine. Le seul truc, c'est que si on regarde, par exemple, par rapport à d'autres pays européens, il me semble de mémoire quand même que l'Italie, ça fait très très longtemps qu'elle n'a pas organisé de compétition internationale.
Oui.
Je crois que c'était 86 ou 90 pour la dernière. Donc moi, je pose juste une question. Au-delà de la Serie A, au-delà de ce championnat, en fait,
la squadra azzurra,
ce pays-là, l'Italie organise un grand événement pour qu'on puisse dire, ça y est, ça s'est arrangé.
Oui, à mon avis, c'est juste ce que vous avez dit. Le Nord, c'est plus riche. Moi, je suis de Bergame, de la Calante. Oui, c'est vrai. On a plusieurs industries. Ici, c'est aussi logistique. On a plusieurs de production. C'est vrai. Malheureusement, le Sud, à mon avis, il ne va pas utiliser les qualités italiennes du food, du manger, les qualités culinaires et aussi du tourisme. Mais ça, c'est une erreur des Italiens aussi, moi je vais le dire.
Bien sûr.
Pour l'organisation des grands événements, c'est pas vrai. Parce que vous savez que les prochains Jeux Olympiques invernali seranno, je vais vous dire en italien, Milano Cortina. On va organiser le Jeux Olympiques aussi, là, le Rhin Nord. Et c'est une situation, un événement international, ça, c'est vrai. Et il y a plusieurs argent que le Nord va utiliser. Moi, je vais le dire, j'ai eu une petite aussi expérience à la Fédération italienne pour le foot féminin.
L'Euro qui commence ce soir en plus, hein, Mikaela, vous faites bien d'en parler aussi. Du football féminin. Non, mais c'est vrai. Ouais, non, il faut le dire. Vraiment.
Et le championnat italien de foot sera pour la première fois professionnel.
Puis j'ai travaillé à la Fédération italienne avec Carlo Tavecchio, l'ancien président de la Fed, et je faisais la promoteur de foot féminine. Et j'ai travaillé avant le foot féminin en Italie n'était pas prof, et j'ai travaillé proche que le jeu du dilettantisme amatorial.
Bien sûr.
Le Nord, il y a plusieurs joueurs aussi du dimanche. Les amateurs sont la force du foot, parce que vous parlez toujours du professionnalisme. L'argent, ce sont les supporters, les amateurs qui vont voir les matchs, qui vont faire les championnats de la ville, de la province, et ce sont la force du sport. Les amateurs. Et moi, j'ai vu que l'argent du Nord a été tout donné à Rome. Oui, c'est vrai, et moi, je le sais parce que je faisais aussi de la bénévolence pour le comité olympique sur ma ville de Bergame. Que la force au Nord, ce sont beaucoup, beaucoup de volontaires aussi. On a une grande force et je vais remercier beaucoup les parents et toutes les sociétés qui font de la bénévolence. et c'est mieux géré. Ça, c'est vrai au Nord, mais c'est pas simplement de l'argent, mais c'est en plus d'heures de société de bénévolence. Hein. Et moi, je l'ai vu avec les petits villages.
Vous faites bien de le rappeler, Michaela. Makali, vraiment, avec nous. Il nous reste plus trop de temps, Michaela. Peut-être une réaction, Abdel. Non, on n'a plus trop de temps, Abdel. Rapide.
Par rapport, si elle peut nous répondre rapidement. En France, le foot amateur, quelle est la place du foot amateur en Italie? Juste, vous pouvez nous donner juste le point de vue italien.
Le foot amateur en Italie, vous savez, c'est le sport national. Par exemple, en Lombardie, on a 1500 équipes d'amateurs. On a 1 200 000 amateurs qui font du foot. Ouais. Ça veut dire que c'est une grande occasion sociale. Moi, j'adore ça parce que c'est une alternative aussi pour les jeunes. Faire du sport. Vous avez en France aussi le rugby. Vous savez que mon compagnon, c'est l'entraîneur du Racing 92. Et alors, j'adore le sport amateur du rugby, du foot. Parce que dans cette société, donc de la, je sais pas, des droits, des respects pour les coéquipiennes, c'est une grande possibilité sociale pour les jeunes.
Merci, Michaela Makali, on le rappelle, correspondante d'Italie pour justement travers le pays, la France, mais aussi agent FIFA, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM ce soir pour la première fois. Un grand merci. Et on retrouvera, bien sûr, vous inquiétez pas, la Serie A, le Calcio et aussi son équipe, la Squadra Azzurra, au plus haut niveau. Ça, en tout cas, on l'espère de tout cœur. Buona sera. Un grand merci, Michaela.
Merci. Bisous à tout le monde.
Ouais.
J'espère à bientôt.
Et eh bien, très vite.
La France à la Coupe du Monde.
Eh bien, bien sûr. On verra bien. On verra bien. Un grand merci, Michaela. Restez avec nous. Une dernière pause et on revient rapidement.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
On est de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en live, 20h44, 21h, vous retrouverez Vanessa jusqu'à 23h, ça c'est promis. Abdel est avec nous, eh oui, Abdel il est toujours là, avec justement, on a parlé de ce football italien, on a eu Michaela Makali avec nous, et aussi toujours là, jusqu'à 21h, c'est Romain Marcelli, directeur éditorial, producteur et enseignant à Sciences Po. Justement, le 01 53 48 3000, allez, on va rester en Italie encore pour cette spéciale football italien et on va accueillir Eric, c'est parti.
Time Sport, la troisième mi-temps. La troisième mi-temps.
Allez, on va essayer d'être assez long sur cette troisième mi-temps. Bonsoir Eric.
Bonsoir Bilal, bonsoir Romain, bonsoir tout le monde.
Alors
bonsoir.
Eric, on vous écoute. Bonsoir, on parle, ben voilà, frère Eric.
Voilà, je suis un grand fan du calcio,
ouais.
En particulier des coachs italiens, les Lippi, Trapattoni, Ancelotti, Sacchi.
Ouais.
Je voudrais que Romain nous éclaire sur la place du coaching italien aujourd'hui dans le football européen. Est-ce qu'il y a une nouvelle vague et qui peut inspirer toute une génération? Je pense à Pioli, Inzaghi, De Zerbi. Voilà, je voudrais son avis là-dessus et peut-être aussi une question particulière sur la place et l'héritage de Carlo Ancelotti au sein de la grande histoire du Milan AC.
Ah ben ça c'est intéressant, vraiment deux belles questions, vraiment
je vois,
Eric. Hein.
Je vois qu'Eric est un connaisseur et un vrai connaisseur de tactique, ça fait plaisir. Merci beaucoup Eric pour votre question. Sur Carlo, je prends la dernière question, c'est une légende absolue.
Ouais.
Carlo, Karl, enfin, il a été, je crois que ce soit Carlo, Karl en Allemagne, partout.
Partout.
Il a été extraordinaire.
Ça a remporté,
C'est un modèle à Madrid, c'est l'homme de la décima, mais c'est pas quelqu'un qui a apporté un apport, il a pas fait une révolution en termes de jeu. C'est pas Sacchi, c'est pas Cruyff, c'est pas Guardiola. Mais en termes de management des hommes, en termes de sérénité, et de style aussi, c'est un homme de style. Je pense que c'est un modèle absolu. À Milan, il est très reconnu parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été deux fois champion d'Europe aussi en tant que joueur, puis deux fois en tant qu'entraîneur. Et il aurait même pu gagner plus s'il n'y avait pas eu cette maudite soirée à Istanbul, cette finale dont tout le monde se rappelle, Liverpool-Milan 3-0-3-3. Donc Ancelotti a vraiment marqué, je pense, son époque plus par un style que par des idées tactiques, même s'il faut pas non plus sous-estimer son côté tacticien. Je pense qu'il y a pas grand monde je connais trois personnes qui connaissent beaucoup en foot. C'est Ancelotti, le fils d'Ancelotti,
oui.
Et puis j'ai un ami d'ailleurs qui s'appelle aussi Eric, qui est un fan absolu d'Ancelotti, qui est un
peut-être nous écoute ce soir
aussi, un grand connaisseur. S'il nous écoute, on l'embrasse.
Ouais.
Et puis sur la première question sur l'école tactique italienne, je serais un peu plus embêté. Pioli a été vraiment formidable ces deux dernières années avec Milan. Il a lancé des jeunes, il a insufflé une dynamique à l'équipe vraiment remarquable. Je suis pas sûr que sur le long terme son héritage soit énorme. Je suis un peu plus, encore plus sceptique sur Inzaghi, Simone et pas Pippo, qui est aussi entraîneur par ailleurs, mais qui réussit un peu moins bien pour l'instant. Donc Simone Inzaghi. Pour l'instant, faut voir. Il n'a pas gagné avec l'Inter, il n'a pas gagné le Scudetto, donc son bilan est beaucoup plus mitigé. Et puis, au niveau international, De Zerbi, Antonio Conte, ils sont quand même des gens qui voyagent plutôt bien, qui sont assez clivants. Je sais pas ce que t'en penses, Abdel, ouais. D'Antonio Conte, mais moi, je suis moins fan. Mais il a le côté meneur d'homme, qui est assez intéressant. Et sur la nouvelle génération qui arrive.
Alors?
Tu l'as cité tout à l'heure, il y a Thiago Motta. Bon, Pirlo, pour l'instant, son expérience à la Juve n'était pas extraordinaire. Gattuso va entraîner à Valence cette année. T'as Abad, aussi un entraîneur du Milan qui commence chez les jeunes, qui paraît-il être un très bon technicien. Donc, à suivre.
Non, par rapport au coach et aux enseignements, alors, c'est vrai que pour prendre ce levier-là, moi, en tant qu'éducateur, on va dire que je m'inspire plutôt de du Catenaccio entre guillemets, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs de l'ancienne époque qui aujourd'hui vont entraîner et ils ont plus trop envie de connaître ce qui est entre guillemets les défenses en béton. Ils vont être beaucoup plus joueurs. C'est ça aussi la nouvelle génération, parce que on voit aussi que c'est beaucoup plus ouvert dans les différents championnats, notamment en Serie A. Moi, par contre, un entraîneur, par exemple, comme Allegri, dont je suis un grand fan, même si ça peut être compliqué pour certains, moi, j'ai toujours apprécié ce qu'il a fait. Mais Antonio Conte, voilà, c'est beaucoup de leadership, c'est beaucoup être un meneur d'hommes. Après, voilà, il mise beaucoup sur la qualité de ses joueurs. Et je pense que quand t'arrives à faire comprendre à tes joueurs déjà qu'ils sont bons et à ressortir le meilleur d'eux-mêmes, c'est une manière de faire. Mais je suis aussi un grand fan d'Ancelotti, ça a été Lippi par le passé, même Capello qui a été un bon entraîneur.
J'espère qu'on ne compare pas Allegri et Ancelotti, là c'est comparé.
Non. Je te parle de ce que je peux aimer, tu vois, mais potentiellement, voilà, il faut sortir le meilleur d'eux-mêmes et les joueurs, ils savent ce qu'ils ont à faire quand même.
On revient à Eric, notre auditeur. Rapidement, Eric, sur la deuxième question, parce qu'on a aussi Fouad qui aimerait réagir sur la Squadra Azzurra, justement. Alors, Eric.
J'ai été très convaincu
par les propos
de Romain et par la place de Carlo Ancelotti, notamment dans l'histoire du Milan AC. Mais c'est vrai que sur la jeune génération de coachs italiens, autant dans les années précédentes, on a eu des coachs allemands, des coachs espagnols avec une vraie identité. Et c'est vrai qu'au niveau italien, on a du mal à définir une nouvelle ligne directrice comme a été le Catenaccio dans les années 70-80. C'était un peu le complément de ma question.
Mais justement, Eric, on va avoir à l'heure actuelle, on va avoir beaucoup plus de coachs qui vont tenter de jouer et de s'appuyer sur ça plutôt que d'avoir un style comme à l'époque, parce que comme je le disais, le championnat est beaucoup plus ouvert et eux-mêmes ont été des joueurs, ont occupé des places importantes dans leurs équipes. Donc je pense que ils vont essayer d'apporter leurs pattes avec un peu plus de jeu plutôt que de pas avoir le ballon.
Oui, alors tout à fait d'accord avec Eric, il y a pas d'identité qu'on voit, mais juste comme le mot a été cité quand même deux ou trois fois sur le Catenaccio, l'entraîneur italien le plus révolutionnaire, le plus flamboyant, celui qui a le plus réussi au point de vue mondial, qui a laissé sa place, c'est quand même Arrigo Sacchi. Et Arrigo Sacchi, ce n'était pas du
bon
tout
boulot.
Du Catenaccio, c'était du grand football spectaculaire qui a inspiré toute une génération d'entraîneurs.
Un grand merci à Eric, qui nous a appelé depuis Paris. Merci Eric. Hein.
Merci. Vraiment. Merci, bonne soirée à tout le monde. Au revoir.
Bonne soirée Eric. Vraiment. Super sympa et très intéressant, justement. Allez, on va aborder, le dernier sujet de cette émission. On a vu que la France a bataillé, justement, mais qui a été battue face aux Italiens et qui remporte, qui a gagné, face à l'Italie, et remporte donc les Jeux méditerranéens du côté de Oran Abdel. Hein.
Ouais.
Mais l'Italie n'est pas là pour cette fameuse Coupe du Monde au Qatar, malheureusement.
Quand on regarde les Jeux méditerranéens, c'est vrai que la France a été mise en difficulté par la jeune garde italienne. Moi, j'ai été très surpris, justement, du potentiel.
Il y a ce vivier italien.
Ça, c'était la génération 2004 qui a eu 18. Je suis allé voir les jeunes italiens au tournoi du Val-de-Marne en début de saison, les U16, qui m'ont pas forcément impressionné, mais il y avait quand même en termes de qualité pas mal de choses. Mais après, pour parler de l'équipe A et l'équipe actuelle, c'est vrai qu'on a du mal à cibler quels pourraient être les futurs éléments de cette sélection qui vont la fonder. On sait que Chiesa malheureusement a été blessé, mais ça peut être l'un des détonateurs. Et après, il y a des joueurs qui prennent de l'âge, mais voilà, avec Tonali, avec des joueurs comme ça, peut-être que c'est l'avenir. Mais pour moi, comme on le disait tout à l'heure,
bien sûr,
avec Romain, en parlant du Milan, il y a beau, là par contre en sélection, il y a beaucoup trop d'écart,
ouais,
parce que c'est sur une courte période en fait.
Alors,
c'est vrai qu'en championnat, on peut se permettre d'avoir des écarts d'âge. On a le temps de pouvoir créer quelque chose. Alors que quand on va en sélection, c'est un truc très très condensé. Et si on est l'expérience avec les jeunes, ça prend pas. Et ben, on peut voir des illusions comme on l'avait avec l'Italie depuis quelques
rapidement,
années.
Rapidement, Abdallah, 0 à 53 48 3000 avec Romain Marcelli. C'est Fouad qui nous appelle. Bonsoir Fouad. L'Italie justement. Hello football.
Bonsoir à tous.
Alors bonsoir Fouad.
Comment allez-vous? Oui, ciao.
Ça va très très bien. Ouais, ciao. Bello, ce que vous voulez. Ça va très très bien. Les gens vont vous faire prendre un magnifique livre de Van Basten. Alors.
Magnifique. Ah, je l'ai déjà, Van Basten.
Ah, ben, il a déjà. Ben, voilà.
Je l'ai
envoyé Richard. Voilà,
Richard, avec plaisir. Ton guillet.
Alors, rapidement. Il nous reste plus trop de temps, alors.
Je sors vite. Alors, moi, j'ai peut-être un élément de réponse sur le désengouement et le désintéressement vers la série 1. Je sais plus qui est-ce qui est né en 85. Moi, je suis né en 90.
C'était l'auditeur. Julien.
Ouais. Ah, c'était Julien. Donc, on est à peu près de la même époque.
Ouais.
Et en fait, on a eu un championnat italien entre 2000 et 2010 qui était ultra compétitif. On a eu la Roma qui a été champion, la Lazio qui a été champion, le Milan AC, l'Inter Milan et la Juventus. Donc sur une période de 10 ans, donc de 2000 à 2010, on a eu 5 champions différents. Puis, il y a eu une dictature de la Juventus. 9 titres d'affilée. Est-ce que c'est pas plutôt un désintéressement et pas une baisse de niveau, je pense, de la Serie A? Parce que la Juve, ils nous ont écœuré du championnat italien, mais c'était trop vieux. C'est un peu comme le Bayern de Munich avec la Bundesliga.
Ouais.
Et de mémoire, je crois qu'entre 2000 et 2010, il n'y a pas un championnat qui a été plus disputé que la Serie A. En Angleterre, on a eu Arsenal et United. En France, on a eu l'Olympique Lyonnais.
Ouais.
En Espagne, comme toujours, c'est vrai qu'en Espagne, on a eu un peu Valence, le Real, le Barça. Mais après, il n'y a pas eu de championnat plus disputé que l'Italie. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a eu un désintéressement, mais pas par rapport au niveau, mais plus parce qu'on savait déjà qui allait être champion.
Fouad, un grand merci Fouad pour cette réaction. Rapidement,
Il nous reste plus beaucoup de temps, donc c'est long d'expliquer pourquoi cette dictature de la Juve, malheureusement pas que pour des très belles raisons. En revanche, surtout l'effondrement de Milan à l'Inter pour des raisons capitalistiques. La différence entre la Juve et le Bayern, c'est que le Bayern réussissait en Europe. La Juve, en Europe, certes, a fait deux finales, mais a perdu les deux fois, lamentablement. Et puis a fait, comme on dit en Italie, beaucoup de figuracce, c'est-à-dire des mauvaises performances. Là où le Bayern, donc, là où il y avait que l'équipe qui dit qu'il y a eu vraiment un poids écrasant, le championnat italien n'arrive pas à gagner la Champions League et en soit loin, montrait quand même qu'il y avait une baisse de niveau.
Ouais.
Voilà, les clubs italiens en Coupe d'Europe, il y a eu une décennie catastrophique. Voilà, mais je rejoins ce point de vue, bien évidemment.
Ah ben justement, il est intéressant cet auditeur qui n'est autre que Fouad, qui nous appelle depuis le nord de la région parisienne. Un grand merci Fouad, un grand merci aussi à Abdel, notre consultant, sans oublier les autres auditeurs et auditrices, toujours de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre chaque soir sur l'antenne de Beurre FM. Et un grand merci à Michaela Macali, notre invité, et vous aussi, Romain Marcelli, directeur éditorial et aussi producteur et sans oublier enseignant à Sciences Po. Un grand merci à vous. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM avec Vanessa qui arrive, 21h. Bye bye et belle soirée à toutes.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.